Personals.
Trois fois par mois, histoire de voir les choses autrement, sous un autre angle ou dans une autre perspective, nous ferons ensemble un pas de côté pour prendre le temps d'écouter des voix dissonantes qui portent un éclairage différent sur nos vies, nos luttes et nos espoirs.
Est-ce qu'aujourd'hui, tout artiste qui veut être reconnu doit passer sous les fourches codines des installations, des performances, des vidéos soporifiques ou des photographies plasticiennes? Ou alors existe-t-il des créateurs, des artistes qui ne se plient pas au diktat de l'art officiel que certains, comme l'écrivain Alain Leduc, qualifient de cynique, de ludique et de futile?
Aujourd'hui, nous recevons deux de ces artistes qui créent dans le silence de leurs ateliers et qui sont aux antipodes des attitudes institutionnalisées.
Il s'agit de Sabine Geoffrey et de Michel Julliard, deux artistes qui marchent sur les chemins du vent et créent dans les marges. Deux artistes enragés et engagés, réunis par leur éthique face à leur création artistique.
Dans cette émission, nous allons parler de l'art contemporain, de la place de l'éthique dans la pratique artistique, nous allons évoquer le formatage et le marché de l'art. Et il sera question de l'engagement de l'artiste et de sa liberté de création.
Dissonance.
Joseph Hula sur Radio Centrafrique.
Bon ben Sabine Geoffrey, je suis graveur, on va dire graveur d'art. Sur le Tarn à Carmaux maintenant. Enfin, je fais un petit détour par Centrafrique à une période, mais maintenant sur Carmaux. Et donc voilà, tout un travail à la fois de cours à l'atelier, de création personnelle et d'intervention, de transmission aussi aux plus jeunes et dans les écoles et dans le... voilà.
Michel Julliard, moi j'habite dans le Rougier de Camarès, je suis parisien d'origine aussi, hein, donc il y a des choses qui nous relient avec Sabine dont on ne parle pas forcément là. Mais... on s'est rencontrés par ici d'ailleurs. Voilà, donc moi je fais de la peinture depuis toujours, sauf que depuis un peu plus de 20 ans maintenant, je n'ai fait que de la peinture. Avant j'ai fait d'autres boulots, j'étais éducateur, j'ai bossé comme responsable d'animation en village vacances, enfin, des choses très très différentes. Et à partir du moment où j'ai commencé à ne faire que de la peinture, ben, j'ai aussi travaillé dans les écoles, travaillé à l'hôpital de Rodez, dans plusieurs lieux différents, dans les médiathèques. Voilà, et donc mon travail, ben, c'est surtout effectivement peinture sur toile ou sur bois, mais aussi avec des poètes, en faisant des livres avec eux, soit avec des éditeurs typographes, soit à 4 ou 6 exemplaires à l'identique.
Dissonance, les invités du mois, Sabine Geoffrey et Michel Julliard sur Radio Centrafrique.
Il me semble, Sabine Geoffrey et Michel Julliard, que ce qui vous relie, c'est entre autres votre éthique. Qu'en pensez-vous et comment vous l'expliquez?
Oui, je pense qu'il y a... Enfin, ça vient aussi peut-être du fait qu'on n'est pas arrivé dans une pratique artistique régulière par le biais d'une école au départ, ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire, je pense qu'on a des parcours différents, puisque moi, après, je suis passée par l'école, à un moment, mais j'avais déjà, à 35, ou voilà, vers 35 ans, j'ai été chercher une formation plus théorique, d'ailleurs, que pratique, au départ. Et, enfin, voilà, je crois qu'on a tous les deux, enfin, tu dis si je me trompe, mais qu'on s'est d'abord frotté au monde, on s'est d'abord frotté à un certain nombre de choses, à la politique, au social, avant de dire je vais prendre un pinceau, je vais prendre un burin pour dire les choses. Donc, enfin, moi, ça me semble être un des éléments importants. En tout cas, pour moi, ça l'a été. C'est-à-dire de pas avoir abordé l'aspect artistique par la technique et par uniquement les conditions d'expression. Mais voilà, à partir du moment où moi j'ai été chercher une pratique artistique, c'est parce que il me semblait que les autres, tout ce que j'avais essayé avant ne me satisfaisait pas, en tout cas. Dans le social, on me disait il n'y a pas de réponse. Dans l'éducatif, on me disait on ne peut pas tout faire. Et je me suis dit, mais peut-être du côté du culturel, de l'art, il y a peut-être des réponses possibles. Bon, je sais maintenant que... je sais maintenant que la recherche est vaine, mais en combinant les trois, peut-être qu'on va arriver à quelque chose.
Et toi aussi, Michel,
moi, je pense que c'est effectivement ce que dit Sabine, je suis assez d'accord, d'autant que le fait d'avoir en premier lieu, au lieu de faire la peinture uniquement, d'en vivre et de faire des expos, d'avoir été confronté à des milieux de travail très différent, donc d'avoir rencontré, fait du boulot tout simplement de manutentionnaire, de faire des boulots de bureau, de faire des boulots en tant qu'éducateur ou animateur, et bien effectivement ça m'a permis de rencontrer tout un tas de gens tout à fait différents, qui pour la plupart sont pas du tout sensibles à l'art, donc on l'oublie pas ça, c'est-à-dire que même quand on est dans le milieu artistique, bien sûr on rencontre surtout des gens qui sont intéressés par l'art, mais les autres existent, et l'envie un peu de toucher ces gens-là, parce que finalement, c'est ça l'intérêt, c'est pas tellement de toucher ceux qui s'intéressent, il n'y a pas de souci, c'est les autres. Mmh. Et je crois que c'est effectivement ça qui fait que, quand on a fait autre chose pour manger, tout simplement, hein. Et il y a d'autres artistes comme ça, hein, qui ont mené des fois les choses en parallèle, je pense à un peintre là... qui lui est mi-temps tout le temps, en même temps peintre et en même temps comptable, c'est assez curieux, pour pouvoir effectivement faire les deux, être libre aussi, c'est-à-dire ne pas, un peu comme quelqu'un qui est écrivain et qui ne ferait qu'écrire, il serait, si ça fonctionne, au bout d'un moment, il est un peu condamné par les maisons d'édition à écrire ce qu'on lui demande. Mmh. Celui qui continue à travailler en même temps, il est libre, donc il écrit ce qu'il a envie, voilà, il y a aussi cette notion-là.
Et puis, je pense qu'on en parlera tout à l'heure, dans l'émission, mais la séparation entre art et travail, c'est un peu nouveau. Et je veux dire, on a travaillé dans autre chose avant. On a une pratique artistique maintenant qui s'associe aussi à d'autres activités. Et moi, ça me paraît important de dire que une pratique artistique, c'est pas dissocié du travail. Mais on en reparlera.
Je suis le nombril du monde, tu es le nombril du monde, le nombril, la lune aussi est le nombril du monde, la lune aussi est le nombril du monde, je t'ignore, tu m'ignores, la lune aussi nous ignore, c'est égal. C'est égal, on est quand même tous le nombril du, on est quand même tous le nombril du, on est quand même tous le nombril du monde. Je suis le nombril du monde, tu es le nombril du monde. Le nombril, la lune aussi est le nombril du monde. La lune aussi est le nombril du monde. Ignore, tu m'ignores, la lune aussi nous ignore, c'est égal, on est quand même tous le nombril du, on est quand même tous le nombril du, on est quand même tous le nombril du monde, je suis le nombril du monde, tu es le nombril du monde, le nombril, le nombril.
Yeah.
Et cette dissociation entre art et travail, est-ce qu'elle vous a évité le formatage? Le formatage par les écoles, le formatage par les standards de ce que l'on attend d'un artiste?
Ouais, bah, de toute façon, on est quand même formaté, hein, de toute manière, on n'y échappe pas, je crois, tous, c'est très, on sort pas de la société, de toute façon, ça c'est un fantasme, donc je crois pas, mais par contre, c'est sûr qu'on est beaucoup plus réticent à des choses qui peuvent être évidentes pour d'autres, parce que voilà, c'est dans l'apprentissage, c'est une vieille phrase sur le sport qui disait la technique de l'autorité est une autorité de la technique. Voilà, c'est exactement ça. Donc c'est une lutte permanente contre ça, c'est-à-dire que sous prétexte que pour arriver à faire tel ou tel travail artistique, il faudrait forcément suivre tel cursus et forcément avoir tel geste, etc. Dans la réalité, c'est pas vrai, parce qu'à partir du moment où on fait ça, on est plus créatif. Donc effectivement, on a besoin de certaines bases. Voilà, on a besoin, si on ne sait pas... moi, je ne sais pas dessiner, par exemple, au sens... voilà, donc j'ai été effectivement pendant un an et demi dans une école, j'ai même pris des cours du soir, j'ai toujours été aussi nul, jusqu'au moment où je me suis dit que ce n'était pas le problème. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, si j'avais quelque chose à dire, il fallait que je trouve le moyen de le dire, et qu'il fallait que je sorte, moi, par contre, des canons habituels de l'esthétique, alors que d'autres, justement, eux, les possédaient, et par contre, n'arrivaient pas à en sortir. Voilà, donc n'avait aucune créativité. Tout le monde ne s'appelle pas Picasso, c'est-à-dire que tout le monde n'a pas la capacité à la fois d'être un excellent, très bon dessinateur, un grand peintre, et en même temps faire un pas de côté. Ça, c'est rare. Mmh. Soit on est dans une démarche, malheureusement, très... très scolaire, je dirais, et voilà, et on arrive du mal à créer parce que c'est pas notre truc, quoi, on sait faire, voilà. Soit l'inverse, c'est...
Par contre, je pense que les pratiques, et là je parle pas d'école, hein, je parle bien de pratiques, je pense que les pratiques artistiques, de tout temps, donc aujourd'hui encore, vont amener, amènent de toute façon des choses comme l'attention, l'observation, un regard critique... et pas forcément critique sur le monde, mais critique sur ce qu'on fait, déjà, c'est déjà pas mal. et puis de la constance, parce que moi, quand il y a des gens qui passent à l'atelier en me disant oh, on pourrait prendre un cours de gravure 2 heures un jour, ça me fait exploser de rire. C'est pas possible avec une pratique artistique. La consommation, on ne consomme pas que des biens matériels aujourd'hui, on consomme malheureusement aussi on amène les gens à consommer de la culture, et ça, c'est pas possible avec les pratiques artistiques, on le sait. On ne peut pas. Moi, la gravure, ce que je leur dis, moi, ce que j'ai passé 6 ans à acquérir dans un atelier, je fais comment pour vous le transmettre en 2 heures? Soyez sérieux, quoi. Donc, les pratiques artistiques, quelles qu'elles soient, hein, que ce soit les arts plastiques, la musique, le théâtre, elles amènent de toute façon, elles maintiennent dans quelque chose d'humain au sens d'un chemin qu'on doit faire pour arriver là où on veut et pas cette illusion que je zappe et j'y vais, quoi. Mm-hmm. Et donc, ça, je trouve ça intéressant. Ça s'apprend pas forcément à l'école. À l'école, on peut apprendre une technique, on peut apprendre, mais c'est la pratique et c'est différent. On en parlera aussi. Mmh. Je pense que la pratique artistique, c'est pas la technique, c'est pas l'école, c'est pas le savoir, c'est autre chose. Et les pratiques pour moi, c'est vraiment la question d'aujourd'hui.
Dissonance. Les invités du mois,
Sabine Geoffrey,
Michel Julliard,
sur Radio Sainte-Afrique.
Et est-ce qu'aujourd'hui, un artiste peut faire abstraction du marché de l'art?
Ça, c'est une longue histoire aussi. Là aussi, on parle... moi, j'ai envie... Enfin, oui. Si on parle du marché de l'art, il y a une chose, on parle de... Bon, allez, on va... l'art contemporain, pendant... C'est un terme... Moi, que je trouve que là, ils ont fait extrêmement fort. Tout art a toujours été contemporain de son époque. Hein, Goya a toujours été contemporain de son époque. Lascaux, ils étaient contemporains de leur époque. Donc, ce vocable de art contemporain, là, au XXe et XXIe siècle, ça veut dire quoi? C'est un courant. C'est au même titre qu'il y a les impressionnistes, au même titre qu'il y a eu Dada, au même titre qu'il y a eu... aujourd'hui, il y a un courant artistique qui s'appelle, qu'on a nommé, que l'officiel de l'art a nommé art contemporain, et qui n'est autre que l'ensemble des œuvres qui répondent aux besoins du marché. c'est-à-dire qui sont vides de sens, parce qu'on ne peut pas spéculer sur le sens, on peut spéculer sur la provocation, mais pas sur le sens. Donc vides de sens, pour que les cotes puissent monter très très vite, c'est-à-dire qu'on verra qu'il y a un circuit aussi de la pour côté des œuvres d'art aujourd'hui. Enfin, ce que je veux dire, c'est que le marché de l'art, c'est une vraie question aujourd'hui sur politique, parce que c'est pas que un marché, comme tous les autres marchés d'ailleurs. C'est aujourd'hui, c'est le marché de l'art qui va valider l'esthétique. Et d'ailleurs, les gens disent oui, mais l'art contemporain, c'est très éclectique, c'est pas. Enfin, si on amène une peinture, par exemple, d'un pigeonnier du Tarn dans un musée, ils vont vous dire, mais c'est pas de l'art contemporain, ça. Alors, c'est peut-être très éclectique, mais c'est aussi très sélectif au niveau esthétique. Il y a une esthétique de l'art contemporain, il y a un courant. Et moi, je pense que dans quelques centaines d'années, dans les livres d'histoire de l'art, 21e siècle, il y aura courant artistique de l'époque, c'est le publicitaire et son avant-garde, l'art contemporain. Voilà, pour résumer l'affaire. Et le problème, c'est que là, ce n'est plus le public qui valide. On peut l'accepter ou c'est inacceptable. Aujourd'hui, c'est le marché qui, avant que les artistes et les je ne sais même pas comment les appeler, hein, c'est pas des œuvres, c'est pas des tableaux, les trucs arrivent au public, ouais, sont déjà validés ou pas par le marché. Donc on comprend bien que si on veut, pour être créatif, c'est même pas qu'il faut... il faut exclure complètement et cette esthétique et ces circuits et ne pas les ignorer en même temps, parce que ça existe, ça fait partie du monde, mais moi c'est pas mon travail, quoi.
Michel, ouais, moi ce que je pense, c'est que de toute manière, c'est si moi je suis contre le système capitaliste, participer au marché de l'art, c'est participer au système capitaliste, puisque c'est une histoire d'argent, de marché, et qu'une œuvre n'a de valeur aux yeux de ces gens-là et n'est vue que en fonction de sa valeur marchande. C'est-à-dire que ça peut être un tableau blanc avec trois taches noires, pour prendre l'extrême, et si ça vaut 100 000 euros au départ, ça peut que monter, puisque c'est par exemple... ça va être vendu à Sotheby's, donc ça va avoir une valeur par rapport à celui qui va mettre cette œuvre sur le marché, et voilà, et on se fout pas mal de ce que ça représente, hein, voilà. Donc on fait croire à un certain nombre de pigeons qui ont souvent l'envie aussi de briller dans la société, que ça a une valeur, ça, c'est effectivement, puisque c'est au musée, et que c'est parce qu'en plus c'est des œuvres au musée. Il y a aussi le travail des conceptuels qui fait que c'est même pas personne ne va les acheter. C'est pas un problème. Ça a une valeur marchande. Donc eux, ils vivent sans. Il y a pas longtemps, il y a 15 jours, 3 semaines que des femmes de ménage, encore une fois, ont nettoyé une œuvre. Parce qu'effectivement, c'était soi-disant une fête artistique qui était montrée. Donc il y avait des bouteilles de champagne partout, des poubelles renversées. Et je trouve logique une femme de ménage qui n'est pas du tout décérébrée, qui a une culture aussi, et elle estime qu'il faut ranger la pièce. Et c'est pas la première fois que ça arrive. Et donc, au scandale, etc., d'un côté, on montre que la femme de ménage est stupide, hein, parce qu'elle n'a pas la notion de l'art. Et d'un autre côté, ça devrait nous faire, ça fait pas rire, c'est grave, quoi. C'est grave de prendre les gens qui travaillent pour des imbéciles et de prendre les gens qui iront au musée à les mettre devant. Moi, j'ai vu sur Culture Box des adolescents parler de ce genre de type d'œuvre et trouver les mots, etc., quoi. Et je les plains, parce que si c'est ça qu'on leur montre, parce que c'est des œuvres où il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas d'émotion. On va éventuellement dans la provocation, mais elle est totalement gratuite puisqu'elle est acceptée par l'institution.
Elle est même validée.
Donc, voilà. Donc, c'est vrai que moi non plus, je ne rentre pas du tout dans ce genre de cadre et ça me... Au mieux ça m'ennuie, au pire ça m'agace profondément et je suis assez en colère, quoi. Alors ce qui est en plus grave, c'est que quand on rencontre des gens qui parlent de, quand on dit qu'on est artiste et qu'on vit de notre art, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on en vit des fois bien, des fois pas bien, mais c'est un choix, hein, donc les artistes qui se plaignent, qui vendent pas, moi je m'en fous complètement, quoi. Je dis, ils ont qu'à aller bosser, hein, c'est tout, hein. Mais quand on a la chance effectivement d'arriver à vivre de son travail, les gens confondent, parce que tout ce qu'on leur montre, soit c'est effectivement cet art contemporain, soit un Van Gogh qui va être vendu des milliers de dollars. Et une toile de... C'est pas là que ça se passe. Moi, j'ai dit à une personne, mais allez voir Van Gogh, allez voir. Et vous n'êtes pas obligé d'aimer en plus. Mais allez voir son travail, et la valeur marchande qu'on a mis dessus n'a strictement rien à voir avec ce qu'il a voulu faire, ni avec la personne en plus, quoi. Voilà, parce qu'on récupère, en mettant des valeurs, ils récupèrent effectivement des choses, des fois, qui ont une valeur émotionnelle, ils les récupèrent dans leur sens, ce qui fait que ça perd tout impact. Le travail de Van Gogh n'a plus aucun impact à partir du moment où c'est des millions, on n'a plus envie de le regarder, quoi. Voilà, c'est ça.
Question gun et machicoulis, un chial vaut 2000 hoplites, mais au rayon philosophie, on est resté chez Démocrite. On joue les chasseurs d'arc-en-ciel, meublés chez Stark et compagnie, mais on sort d'un vieux logiciel, made in Neanderthal City. Médiocratie, médiacrité, frères humains dans nos quartiers, ça manque un peu d'humanité. Médiocratie, médiacrité, ça manque un peu de verbe aimer, de respect, de fraternité. Médiocratie, médiacrité. Dans le grand jeu des anonymes, la fiction s'adoube au virtuel. On s'additionne, on chatte, on frime, et l'on se soustrait au réel. Baiser grave et manipulé devant nos écrans de Facebook, on n'a qu'un pseudo pour rêver et s'inventer un autre look. Médiocratie, médiacrité, frères humains dans nos quartiers, ça manque un peu d'humanité. Médiocratie, médiacrité, ça manque un peu de verbe aimer, de respect, de fraternité. Médiocratie, médiacrité, frères humains, frangins tannés, sous la plage, y'a les pavés. Médiocratie, médiacrité, des pavés bien intentionnés pour un enfer climatisé. Médiocratie, médiacrité. Devant toutes ces news qui nous saoulent, ces flashs qui nous anesthésient, DJ God a perdu la boule et mixe à l'envers nos envies. Devons-nous croire à un réveil dans l'au-delà des jours fériés, avec la photo du soleil brillant sur nos calendriers. Médiocratie, médiacrité, frères humains dans nos quartiers, ça manque un peu d'humanité. Médiocratie, médiacrité, ça manque un peu de verbe aimer, de respect, de fraternité. Médiocratie, médiacrité.
Donc, si je comprends bien, si je vous entends bien, un artiste peut exister en dehors du marché de l'art. Quand vous parlez de marché de l'art, c'est de l'art contemporain. Qu'est-ce que vous pouvez préciser ?
Le vocable d'art contemporain est très malin, parce qu'à partir du moment où on parle d'art contemporain, qui a donc l'art d'aujourd'hui, et qu'on définit une esthétique très particulière, ça veut dire que tout ce qui rentre dans cette esthétique est contemporain, et que tout le reste n'existe pas, parce que ça ne se nomme pas. Parce que ce que fait Michel, ce que moi je fais, ce que plein de copains font, ce que plein d'artistes qu'on connaît font, ils le font aujourd'hui, donc ils sont contemporains, mais comme ils ont décidé ou qu'ils ne sont pas dans l'esthétique de l'art contemporain, eh bien, il n'y a pas de nom pour nommer ça. Je crois que c'est la première fois de l'histoire de l'art où il y a un mouvement qui est hégémonique, mais aussi par le fait qu'il est totalisant. C'est-à-dire que le terme d'art contemporain fait que rien ne peut exister autour. Parce que nous sommes tous contemporains de notre époque. Et ça, c'était très très malin, quoi. Donc je sais pas, il faut arriver... Alors il y a des termes qui sont sortis, comme l'art vivant, comme qui permettent de dire, excusez-nous de vous pousser un petit peu, mais il n'y a pas que cette esthétique-là, il y a plein de gens qui font plein de choses. Et sans le mettre dans des courants, sans le mettre dans des... on peut quand même avoir un regard sur ce qui se passe autour de l'art du ministère de la Culture, des ministères de la Culture successifs, on va dire. Et voilà, je voulais juste finir par ça en disant que ce terme-là, il est terrifiant, à la fois parce qu'il capture l'époque, et que dans cette capture de l'époque, il enferme une certaine esthétique, et que tout le reste, à partir de là, c'est pas que c'est pas de l'art, ou que c'est pas bien, ou que c'est pas... C'est que ça n'est pas.
Ça n'est pas, mais pourtant ça existe et ça résiste.
Oui.
Oui, mais c'est, je dirais que ça résiste effectivement, mais que quelque part, comme on aime bien mettre des mots sur les choses, par exemple, on appelle aussi l'art brut, l'art singulier, etc., pour différencier l'art contemporain, mais qu'à partir du moment où le système marchand voit ce genre de choses, il met la main dessus. Donc il met des valeurs financières de nouveau, et donc on voit apparaître à côté de la FIAC et autres, eh bien effectivement des galeries qui vont proposer art brut, art singulier, et dans ces galeries, dont certains font bien leur boulot, hein, c'est pas de problème, mais d'autres font du fric. Donc on va donner une valeur financière, petit à petit on voit apparaître l'art brut, parce que les gens sont quand même un peu saturés de cet art qui ne veut rien dire, ils ont besoin de retrouver plutôt justement peut-être une éthique, à travers peut-être des choses qui leur parlent quand même, de l'émotion, et donc on va vite mettre une valeur marchande dessus. Je pense entre autres à des artistes qui ont vécu il y a un siècle, même pas, qui ont vécu dans la misère, et dont les œuvres valent maintenant une fortune. Hein, de même que Van Gogh, dans l'art brut, on a la même chose. On a effectivement des gens qui monnayent, alors qu'en plus, ces gens-là, souvent, il n'y avait pas de famille, ou cette famille ne s'intéressait pas à l'art. Et voilà. Et donc, ces gens-là, maintenant, ça a une valeur extrêmement financière. Donc, quand on monte une expo, je pense entre autres à une expo qui a été montée à Montauban au musée, eh bien, il devait y avoir une œuvre de Séraphine. La personne qui s'occupe des œuvres de Séraphine a demandé 8000 euros simplement pour la déplacer, une petite œuvre de 30 sur 40, un truc comme ça, quoi. Donc bien sûr, la personne qui montait l'expo n'a pas pu fournir ce financement. D'ailleurs, elle trouvait que c'était une hérésie de payer 8000 euros pour transbahuter une œuvre de quelqu'un qui est mort dans la misère, dont on fait tout un maintenant parce qu'il y a eu un film, etc. Elle était connue à son époque. Hein. Voilà, on arrive à des choses comme ça. C'est-à-dire que l'intérêt pour Séraphine, c'est un intérêt financier maintenant. C'est pour ça qu'elle a de la valeur. Pas en tant que personne, pas en tant que ce qu'elle a fait, mais voilà, on retombe dans le même biais, très très rapidement. C'est-à-dire que l'argent tue tout. C'est pas nouveau. Hein. D'ailleurs, c'est pas qu'au niveau de l'art. Mais c'est un petit peu ça, ouais.
Dissonance. Les invités du mois,
Sabine Geoffrey,
Michel Julliard,
sur Radio Sainte-Afrique.
Et d'ailleurs, quand tu parlais du marché de l'art, on parle du marché de l'art comme ça pour aller vite, mais en réalité, il y a trois marchés, il y a trois niveaux différents. Et les appellations, c'est... il y a le marché de l'élite, c'est-à-dire l'art contemporain qu'on voit dans tous les centres d'art contemporain, qu'on voit chez... dans toutes les salles des grandes entreprises, etc. Il y a cet art de l'élite. Ensuite, il y a le marché de l'élite. Il y a le marché des amateurs, voire le marché de la croûte, comme ils l'appellent, c'est-à-dire, pour aller vite, les pigeonniers du Tarn. Et ensuite, il y a le marché des produits dérivés. Le marché des produits dérivés, c'est... Je dis ça par rapport au déplacement des œuvres. Les œuvres originales sont devenues... si on veut rentabiliser les musées, il n'y a pas 50 solutions. Hein. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des musées ouverts, gratuits, accessibles à tous, on va avoir des musées qui sont des agences de location d'œuvres. Donc, les œuvres qui sont dans le monde entier, il va y avoir... les tableaux actuels qui sont à disposition du public, l'idée c'est de les rentabiliser. Comment rentabiliser un tableau? En le louant. Donc, pendant qu'il est tel tableau est au pince-fesse au Qatar de je sais pas quoi, le peuple lui aura accès aux produits dérivés, c'est-à-dire aux sous-bocs Matisse, aux serviettes en papier Picasso. Ça veut dire que pas accès aux œuvres réelles, c'est-à-dire pas accès à la matérialité des œuvres, est-ce que c'est une peinture, comment elle est faite, quelle touche, etc. C'est l'intérêt d'aller au musée aujourd'hui. Pas le format. Déjà sur Internet, on trouve un paquet d'œuvres qui sont renversées, c'est-à-dire où la gauche est à droite, la droite est à gauche, et où les petits numéros qu'on voit avec un X au milieu, c'est pas la dimension de la toile, c'est le nombre de pixels. Donc, nous, déjà, quand on fait des articles, quand on travaille sur l'histoire de l'art, on se rend compte que sur Internet, déjà, les jeux sont faussés. C'est-à-dire qu'on habitue le public à ne plus avoir de repères entre l'image sur Internet ou le sous-boc Toulouse-Lautrec et l'œuvre réelle. On déconnecte la correspondance entre le produit dérivé et l'œuvre. Donc les œuvres, elles vont pouvoir se promener dans des avions sur tous les pince-fêtes de la Terre et rapporter beaucoup d'argent à leurs propriétaires. Pendant ce temps-là, eh bien, le peuple, lui, il commence à s'en satisfaire très bien. Il aura posters, sous-bocs, etc., qui lui rappelleront qu'il y a des œuvres, qu'il y a des gens qui ont... voilà, mais avec plus aucune correspondance possible entre l'œuvre réelle et les images de produits dérivés. Et c'est un marché très juteux, parce que du coup, Matisse, on va le vendre 100 milliards de fois à toutes les générations. Pendant qu'on louera les originaux.
Et en plus, c'est voler quelque chose d'important, c'est le travail de la main. Et ça, c'est pas non plus anodin. C'est-à-dire que un graveur, un peintre, un sculpteur, il travaille avec ses mains. Et là, on part dans le virtuel, et donc il n'y a plus cette relation. Et donc, c'est vrai que les gens qui sont en dehors du milieu de l'art, moi, je sais que quand on fait des ateliers avec les enfants, ou que des parents viennent voir, etc., le fait de faire, de fabriquer, voilà, qui voient ça, ça leur parle. Et que si on fait peindre des adultes qui n'ont aucun rapport avec l'art, s'ils acceptent de venir à un atelier, de peindre, parce qu'il y a des enfants qui sont là et qu'on leur demande de s'asseoir aussi, et c'est arrivé, il se passe quelque chose. On est dans le faire. On est dans le faire et on n'est pas non plus... on est dans le doute. Ça, c'est la première chose en art. Si on n'est pas dans le doute, on ne peut rien faire. On ne peut pas avancer. Et le fait de faire, de fabriquer, on a accès en fait à l'art. On commence à le comprendre. En travaillant au lycée, par exemple à Saint-Afrique, au lycée agricole, on l'a vu avec les élèves de 18 ans qui étaient en équin et qui n'en ont rien à foutre au départ, pour la plupart. Alors que quand même, quand on achète un CD de musique, il y a bien une photo, il y a bien un dessin des fois. L'art est partout quand même, une voiture elle est dessinée, enfin je sais pas, il y a aussi tout ça qu'on oublie. Et le fait de fabriquer, au bout d'un moment, c'est quelque chose, c'est un objet, quand on fait un livre avec des jeunes, quand le livre est fini, qu'on est passé en typographie, qu'on a fait qu'avec un autre artiste, on a travaillé sur la terre pour faire la couverture, ils ont un objet qu'ils ont fabriqué, qu'ils ont fait, dont ils sont contents ou pas contents, mais c'est à eux, ça leur appartient. Et là, on rentre dans l'art et c'est une autre notion. C'est pas une notion d'argent, c'est pas une notion... À partir du moment où tout est fabriqué à l'avance, où le poster de Van Gogh n'est pas la bonne dimension, n'a pas les bonnes couleurs et qu'il y en a 100 000, on n'est plus du tout. Comment s'approprier cette œuvre ?
Wasting time,
you're wasting time,
I'm losing my mind. every day waste my days all the time.
Moi, j'aimerais aussi qu'on... Donc, l'art, ce n'est pas l'argent, j'ai bien compris. Mais l'art, ça peut être aussi l'engagement. On ne l'a pas trop abordé. Moi, je vous ai rencontré un jour, vous étiez sur une place publique pour peindre et agir, pour défendre quelqu'un qui était incarcéré. Donc, est-ce que l'art, ce n'est pas aussi s'engager, dénoncer, soutenir ?
Il faut clarifier des choses avant ça. Moi, je pense que un artiste, quelle que soit sa pratique, c'est d'abord un citoyen. Je veux dire, les artistes ne sont pas exonérés de se former politiquement, d'avoir... voilà, c'est pas... moi, je trouve ça très bizarre qu'on attende automatiquement, enfin, ou en tout cas, des artistes, l'engagement, on va pas dire, est-ce que vous êtes un boulanger engagé ? Et en même temps, c'est pas si simple que ça, je suis d'accord. Mais n'empêche que, dans les deux cas, moi, je pense que... moi, je connais plein d'artistes qui sont des citoyens lamentables, c'est-à-dire qui ont une pratique artistique, mais qui ne se sont pas posés deux questions sur le monde dans lequel ils vivent. Et ça, ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup plus de temps de comprendre le monde dans lequel ils vivent et comment ils tournent, que des fois d'apprendre à peindre ou à graver. Hein, moi, graver, une fois que je sais, je m'en sers, quoi. Le monde, il bouge tous les jours, quoi. Donc... voilà, moi ce que je veux dire, c'est que je ne dissocie. Enfin, pour moi, c'est les artistes, c'est d'abord des gens comme tout le monde qui sont pas exonérés en tant qu'individus d'avoir un avis et un regard sur le monde. Après. Certainement que tout ce qu'on a dit avant avec Michel, c'est-à-dire par où on passe, ce qu'on fait, les rencontres aussi. J'imagine que, nous, on a une pratique qui nous amène à rencontrer des gens très différents tout le temps, donc que ça va favoriser un certain peut-être esprit critique ou regard, une facilité à faire des pas de côté à des moments plus facilement. Mais moi, ça me dérange de dire. Pour moi, les artistes engagés ou les artistes pas engagés, c'est d'abord des citoyens engagés ou des citoyens non engagés. C'est ce que je veux dire. Et que il n'y a pas d'artistes pas engagés. Il y a juste des gens qui ont dans leur pratique, il leur suffit de la technique. Voilà. Et il y a des gens à qui ça suffit pas.
Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec ça. Je veux dire, après, c'est une histoire de personne. Hein. Moi, je trouve dommage, effectivement, qu'il n'y ait pas plus d'artistes qui aient un engagement politique, pas au sens politicien du terme, alors absolument pas. Hein. Au sens politique, c'est-à-dire au sens d'une éthique, d'un questionnement sur la société, etc. C'est dommage, mais à la limite, il n'y a pas d'obligation. Après tout, ça regarde chacun. Après, c'est sa façon de fonctionner. À mon avis, on a quand même des chances d'avoir des œuvres... un peu plus puissante et un peu plus forte quand on a un engagement citoyen, parce que voilà, on regarde le monde, donc on le ressent. Ça veut pas dire, moi mon travail, il y a très très peu d'œuvres qui sont réellement politiques au sens politique du terme, hein, parce que ça m'intéresse pas, parce que c'est pas un langage commun dans ce cas-là, ça devient un langage personnel, donc pour une action précise je peux le faire. Mais c'est pas mon langage pictural, quoi. Mon langage pictural, il est au-delà de ça. C'est-à-dire qu'il est fait pour que les gens y trouvent autre chose, quoi. Une autre vision du monde, certainement, voilà. Mais qui n'est pas une vision politisée. Parce que sinon, ça serait tombé dans les systèmes, comme certains artistes qui demandent à être payés pour faire leur travail. Donc on se retrouve dans un système totalitaire, quoi. Dans un système communiste où, effectivement, en Union soviétique. On payait les artistes, mais pas pour faire n'importe quoi, pour faire ce qu'on leur demandait. Donc c'est un risque aussi, le politique, hein, bien sûr. Quel que soit, même si on n'est pas dans cet engagement-là, il y a toujours un risque de ce genre de choses. Et je redis, il faut être dans le doute, on est dans le doute permanent, parce qu'effectivement, comme dit Sabine, le monde bouge sans arrêt, bouge tout le temps, tous les jours. Comment répondre, par exemple, ce matin, il y a eu un attentat donc, qui a fait apparemment plus de 120 morts, on a peut-être beaucoup plus que ça sur Paris. Comment on le vit, nous, en tant qu'artistes? On le vit comme n'importe quel citoyen. Je veux dire, il n'y a pas de différence. Je veux dire, on n'est pas bien, quoi, quand on entend ça. On pense aux gens éventuellement qu'on connaît. On pense à ceux qu'on connaît pas, mais peut-être qu'auraient pu être des amis. des liens, etc. Et on est touché par rapport à ça. Est-ce qu'on doit faire une œuvre là-dessus? Moi, je n'en suis pas convaincu du tout. Ça serait peut-être même répondre justement à ce qu'on attend de nous. Et ça serait une grosse erreur parce que dans 50 ans, dans 100 ans, il y aura d'autres choses qui seront passées. Et le but, c'est quand même que, modestement, notre travail, dans 50 ans, peut-être, comme nous, on voit certaines œuvres de gens, d'artistes méconnus, on est touché par une peinture parce qu'elle représente quelque chose d'inhabituel et qu'elle nous parle quelque part, quoi. Voilà.
Dissonance, les invités du mois.
Sabine Geoffrey.
Michel Julliard.
Sur Radio Sainte-Afrique.
Et après, moi, ce que j'ai envie de rajouter, c'est pas simple parce qu'on peut pas non plus s'extraire de ça complètement. C'est vrai que moi, j'ai travaillé au début avec Michel, on avait monté donc cette exposition sur le programme du Conseil National de la Résistance en 2004, je crois.
Qui s'appelait Résister, c'est créer.
Après, moi, j'en ai monté une autre en 2008 sur que nous reste-t-il de mai 68. Et là, dernièrement, en 2014, sur Jaurès, foutez-nous la paix mondiale. Parce que quand j'ai découvert ce mode de c'est plus de mise en synergie par le biais de l'art postal avec Michel quand on y a travaillé en 2004, j'ai trouvé que c'était un très bon outil, l'art postal, pour amener des gens qui n'avaient pas touché un pinceau depuis 20 ans à y revenir, des gens qui avaient des choses à dire et qui peut-être, voilà, c'était une petite ouverture qui leur permettait de dire, c'est pas possible. Où je pensais, etc. Donc là, l'art postal, dans ce cas-là, ces expos d'art postal qui sont, parce qu'il y a aussi des expos d'art postal sur les citrons à menton et sur l'air du temps. Hein. Et donc, le fait de prendre des dates comme prétexte et de les actualiser, c'est bien sûr que c'est pas anodin et que c'est un support. Et que là, je dirais, c'est plus. Moi, je me sens pas tellement dans mon travail d'artiste à ce moment-là. Je me sens plus dans un travail dans quelque chose de mes convictions de citoyenne à dire. On peut pas rien dire. Allez, on va prendre un prétexte, on va prendre un outil, on va essayer de bouger des gens avec et de travailler avec d'autres avec ça. Et il en sort parce que la pratique est artistique et pas, mais c'est exactement la même chose que ce que tu fais là avec toi, ton magnétophone, c'est-à-dire faire des liens et amener des paroles à exister. Mais après, et voilà, la grosse difficulté quand on a une pratique artistique, c'est ce que, enfin, je veux dire, on a vu toutes les, on peut sculpter des bustes de Mao au kilomètre, ça changera pas la mise, quoi. Et c'est plus de l'art non plus. Dans tous les partis politiques, quand tu vas voir sur les sites, maintenant qu'il y a des sites, dans la partie commission culturelle, tu trouves toujours propagande. C'est-à-dire que moi, mais même, je veux dire, dans des partis comme le parti de gauche et tout ça, je veux dire, c'est pas que la droite dure. La confusion entre pratique artistique et propagande en politique, elle est permanente. Pourquoi ? Parce que pour les politiques, un artiste, ça sert à véhiculer ses idées à lui. On marche en terrain miné tout le temps, quoi. C'est-à-dire que nous, on veut pas faire du buste de Mao à longueur de journée et faire avec la gravure, je pourrais imprimer des tracts toute la journée, hein, des tracts très artistiques, ça serait très beau. Hein. ça m'intéresse pas, pour personne. Michel, il pourrait... Et on est pris en permanence entre deux feux. Parce qu'il y a des choses où on a envie de dire ce qu'on en pense. Mais moi, je pense que c'est plus efficace de le dire comme en tant que citoyenne, de trouver les lieux et les moyens et de le dire, et si possible à plusieurs. Et puis après, si ça ressort dans mon travail, parce qu'il y a des choses qui ressortent dans mon travail, mon travail n'est pas hors du monde. Je rentre pas dans le pays des bisounours parce que je passe la porte de mon atelier. Forcément que dans mon travail, il va y avoir des choses qui m'insupportent ou qui me... Mais pas que ça. C'est très compliqué, je trouve, d'autant plus que l'art contemporain se revendique non plus comme subversif, mais comme provocateur. Et la vraie subversion, à mon avis, c'est pas qu'une pratique artistique. La vraie subversion, c'est une association d'une formation politique, d'un positionnement politique, d'un courage de citoyen, d'une pratique artistique aussi, d'une volonté de travail collectif avec d'autres. C'est tout ça qui fait qu'à un moment, en tant qu'artiste, mais aussi en tant que boulanger, ou en tant que ATSEM, ou en tant que mère de famille, ou en tant que chef d'entreprise, on va apporter un regard critique et Mais en tout cas, moi je ne crois pas à l'artiste. Voilà, qu'on va sortir du. Voilà. Que toute l'année, on disons qu'à bouffer d'air pur et d'eau fraîche. Puis quand il y a un clash, les artistes, on veut savoir ce qu'ils en pensent. Bah, qu'ils aillent demander. Aux autres, quoi.
Moi, je crois que c'est surtout un médium et qu'il ne faut pas oublier qu'il faut être extrêmement là-dessus très humble, parce que penser que grâce à la photo, grâce au cinéma, grâce au théâtre, grâce à la peinture, à la gravure ou autre, on va changer le monde, il faut arrêter, quoi. C'est pas vrai du tout. Donc, effectivement, tout ce qu'on peut faire, malheureusement, dans ce cas-là, c'est tomber dans la propagande. Et je pense, entre autres, pendant la guerre d'Espagne, je pense aux graphistes de la CNT, entre autres, qui ont fait des affiches qui sont exactement les mêmes que celles de l'extrême droite à l'époque. C'est des très belles affiches, mais l'extrême droite faisait de très belles affiches aussi. Hein. Et certains, d'ailleurs, encore vivants, ont dit qu'ils regrettaient énormément d'avoir fait ça. Parce que sur le moment, ils faisaient parce qu'il fallait faire. Et en fait, c'est pas du tout ce qu'ils avaient envie de faire. Mais voilà, ils sont tombés eux-mêmes dans la propagande parce que le monde à ce moment-là était tel que la pression était tellement forte qu'il fallait bien qu'ils agissent. Et malheureusement, après, oui, c'est le regret de se dire, mais finalement, nos affiches, c'est les mêmes que les futuristes italiens, c'est les mêmes que il y avait le même courant en Union soviétique, le même courant. Et c'est terrible, quoi. C'est terrible de se rendre compte, c'est le risque, quoi. Alors qu'ils ont fait des choses merveilleuses en tant que peintres. Et puis d'un seul coup, ils sont tombés dedans, quoi. Et c'est vrai que c'est pas un reproche, hein. C'est voilà.
Un constat.
C'est un constat, quoi.
Et puis, on vient toujours demander aux artistes de s'engager au moment où il y a la guerre. On n'écoute jamais ce qu'ils disent en temps de paix. Et moi, c'est un peu comme ça que je conçois la pratique artistique en général, pas forcément la mienne. Enfin, moi, j'essaye d'arriver à ça, mais. Je pense que les artistes travaillent. Le fait d'avoir une pratique artistique, c'est de se mettre un peu en souterrain. C'est de regarder un peu au-delà de la surface des choses. Et moi, je dirais un artiste, c'est des gens qui, à un moment, quelle que soit leur pratique, parce que ça aussi, l'artiste, c'est un nom commun, c'est un adjectif. Pour moi, c'est un adjectif. C'est-à-dire que on peut être un artiste dans tout ce qu'on fait, et puis on peut être un gros con dans tout ce qu'on fait aussi, quoi. Donc c'est pas, pour moi c'est un adjectif. Et donc je pense que on parle de donneurs d'alerte aujourd'hui. Moi je pense que les artistes, c'est des gens qui dans les méandres sous terre là voient les nappes phréatiques se remplir, voient les infiltrations, et à un moment sont capables de dire attention, là ne mettez pas une décharge ici là, parce qu'ici il y a une source qui va sortir. Peut-être dans 5 ans, peut-être dans... Je ne peux pas vous dire exactement comment. Et ce n'est pas de la prédiction, ce n'est pas de la magie. C'est juste une autre écoute, une autre oreille, un autre regard. Et donc, pendant qu'on dit attention, là, c'est peut-être important de ne pas mettre une grosse décharge pourrie à cet endroit-là, parce qu'il y a quelque chose qui va jaillir. Tout le monde s'en fout. Et puis, à partir du moment où la décharge est là, et ben là, on va venir demander aux artistes ce qu'ils en pensent. Ben, ils pensent que... Je pense qu'il fallait pas le mettre là, mais l'art, et c'est pas que les artistes, c'est les gens. Nous, c'est ce qu'on fait avec les expos d'art postal, c'est que.
Mais c'est du lien avec des gens tout à fait différents. C'est ça l'intérêt.
L'année dernière, quand on a présenté l'expo sur Jaurès, c'était juste avant les municipales, et il y a trois élus qui sont venus voir l'expo en disant, bon, c'est une expo de Jaurès, juste avant les. Et ils sont venus me voir en disant, mais avec ce qu'on a vu sur l'expo, je sais pas si on va se vanter d'être socialiste. Et moi, je leur ai répondu, écoutez, moi, j'ai fait mon travail. Maintenant, vous faites le vôtre.
Sais-tu que tu es à peindre nu, voluptueusement étendu, une main nonchalamment posée sous ta nuque que j'ai tant embrassée, et sous ton corps argenté, le grand édredon carré où l'on s'est tant aimé. Aimer et re-aimer. Derrière toi, je verrais bien quelques arbres, des bouleaux, ça ferait bien dans le tableau. Et puis aussi un petit ruisseau, tu as toujours adoré l'eau. J'aimerais que tu sois décoiffé, c'est comme ça que tu me plais. Et puis aussi parfumé, comme ça il n'y a que moi qui le saurais. Un petit avion qui glisserait devant le soleil, ça te ferait lever les yeux. un petit avion scintillant comme une abeille écrirait ton nom dans le bleu. De ce pas, je vais faire encadrer ce chef-d'œuvre qui t'est dédié, et je le dépose à tes pieds sans oublier de le signer.
Une dernière question. Est-ce que vous vous sentez libre dans votre travail? Si on peut parler de travail, si vous acceptez ce mot pour votre, oui, vos créations, est-ce que vous vous sentez libre, Michel, Sabine, dans votre travail, dans ce que vous faites?
Ah bah, heureusement, quelque part. C'est-à-dire que justement, quand je suis dans l'atelier, je suis un peu ailleurs. Hein, c'est-à-dire que je dis, oui, c'est vrai que c'est un médium. C'est-à-dire que d'abord, le travail que je fais, il ne m'appartient pas, quelque part. C'est-à-dire que je fais quelque chose, je suis imprégné de livres que j'ai lus, de gens que j'ai rencontrés, de films que j'ai vus, de musique que j'ai écoutée, parce que par contre dans l'atelier j'écoute absolument rien. Et donc mon travail c'est un peu une transmission de ce genre de choses. Hein. Donc effectivement ça amène à une sensibilité, à des émotions tout à fait inhabituelles, parce qu'on ne s'écoute pas. Je pense à un écrivain... Georges Navel, qui parle du premier livre qu'il a écrit, qui était, lui, il était terrassier, hein. Il a écrit plusieurs livres, donc travaux, où à un moment, effectivement, quand il a un refus des éditeurs, eh ben, il dit qu'il n'est plus rien. Voilà. Parce qu'avant, il écrivait des lettres, et les lettres, ça passait bien. Ben, forcément, les lettres, personne va... Et puis, quand il se met à écrire un livre, puis, ben là, d'un seul coup, ce gros effort qu'il a fait, il n'est plus rien, il est très très mal, il est seul, sa compagne n'est pas là, et puis il se met à raccommoder son pantalon. Et il prend conscience qu'il est en train de raccommoder son pantalon. Et ce geste, c'est-à-dire le geste de travail, d'un seul coup, d'être avec soi-même, qu'il va reproduire d'ailleurs de manière assez drôle pendant toute une journée, au bout d'un moment, il n'est pas bien, il se dit « il faut que je reprenne la vie normale », quoi. Et ben, d'un seul coup, il échappe au monde. Il échappe au monde, il trouve autre chose, il trouve du concret. Et quand on est dans la peinture, je pense que la gravure, c'est pareil, mmh, on est dans un travail qui à la fois nous appartient sans nous appartenir. Qu'est-ce qui fait qu'on va mettre tel visage à tel endroit ou telle couche de noir à tel endroit plutôt que de gris, etc. Et on est quand même dans une notion à la fois souvent de plaisir. Bon, bien, des fois on échoue, hein, des fois ce qu'on a fait, on n'est pas très content. Mais on peut toujours reprendre, c'est pas un problème. Et c'est quand même un choix, et c'est surtout ça qui est important. Moi, je pense que c'est important, c'est que c'est un choix. Et donc, on doit l'assumer. Je le redis souvent, quand j'ai eu des enfants, je pense, dans le Nord-Aveyron, vers de Casville et autres, dont les parents ont des boulots pas très transcendants. La mère bosse au supermarché, le père, il a un boulot ben, justement de manute, etc. Et je disais que moi, en tant qu'artiste, j'ai la chance d'avoir choisi ce que je voulais faire. Bien sûr, si je ne vends pas de peinture, eh ben, la fin du mois est difficile. Mais je vais en vouloir à personne. Personne ne m'a demandé de faire ça. C'est la grande différence.
Quand tu parles de travail, est-ce qu'on accepte ce terme-là? Moi, j'irais même, on le revendique. Oui. Aujourd'hui, on le revendique.
Et libre dans ton travail?
Ben oui, c'est... oui, libre dans mon travail, mais... parce que c'est toujours pareil. Quand tu es dans ton atelier, c'est comme les gens qui se mettent à leur bureau et qui écrivent. Ils peuvent écrire ce qu'ils veulent. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le plus gros manque de liberté, il est d'abord dans l'auto-censure. La censure, elle est très... Enfin, je veux dire, on a un truc très soft aujourd'hui. Hein, tout le monde peut tout dire, liberté d'expression, tout ça. Mais c'est normal, je veux dire, à partir d'un moment où il y a une uniformisation des choses, où il y a que la plus grosse censure, c'est l'autocensure des artistes aujourd'hui. Et il faut être très vigilant à ça, parce que là, il n'y a pas de flic à la porte, il n'y a pas d'auto-da-fé dans la cour, c'est juste, je peux le dire, je peux pas le dire, je peux le faire, je peux pas le faire. Quand on travaille, j'allais dire, c'est l'écueil aussi du travail d'aujourd'hui, où chaque artiste est dans son atelier. C'est pour ça qu'on essaye aussi des fois de faire des ponts, de travailler, parce que, à mon avis, une des plus grandes résistances aujourd'hui dans le milieu de l'art, ça serait ça. C'est d'arriver à remettre en place un certain nombre de pratiques collectives. Parce que une fois que chaque artiste est dans son atelier avec sa dose d'autocensure, le marché de l'art, il craint plus grand-chose, et le politique non plus. Voilà, si on parle de résistance, moi je pense que la plus grande résistance aujourd'hui, ce serait de travailler collectivement, de façon anonyme, et... Voilà, arrêter de revendiquer les noms, les machins, les trucs. Pas se cacher. C'est pas. Mais voilà. Moi, je pense que le collectif, c'est très subversif. Voilà.
Non, moi, je suis tout à fait d'accord. De toute façon, pour moi, déjà, l'enveloppe peinte, c'est aussi un moyen de toucher tout un tas de gens et puis de correspondre avec des artistes que je connais depuis longtemps, qui sont loin. Voilà, c'est gratuit. Il n'y a pas de vente. C'est important. On sort du marché complètement, là. Il n'y a aucune vente. Il n'y a pas de. Voilà, les gens pensent ce qu'ils veulent, ça circule par la poste, certains font des expos avec à certains moments, voilà, d'autres pas, chacun est libre. Voilà, mais c'est du don et de l'échange, quoi. Dans un système marchand, c'est déjà pas mal, c'est un début. Mais c'est vrai qu'on a. Oui, l'art postal. Mmh. Mais on a besoin, à des moments, effectivement, de faire des choses en commun, de se retrouver, parce que pour confronter un petit peu nos pratiques. Pour savoir un peu ce que les autres pensent aussi, savoir si on est sur les mêmes longueurs d'onde, hein, des fois, voilà, c'est important. Parce qu'on a un combat commun, quelque part, à mener, quoi. Contre l'ignorance, contre la bêtise, contre l'obscurantisme, etc. Là, c'est très clair. Ceux qui ne le pensent pas, qui ne s'en rendent pas compte, c'est grave, quoi. On ne peut pas être artiste si on ne lutte pas contre l'obscurantisme. C'est pas possible.
Je veux dire qu'on lutte aussi en temps de paix.
Un grand merci à Sabine Geoffrey et Michel Julliard. Vous pouvez suivre l'actualité de Michel Julliard en tapant sur un moteur de recherche son nom et son prénom. Pour Sabine Geoffrey, vous pouvez lire ses réflexions sur l'art en allant sur le site de la revue et critique. Le lien pour s'y rendre se trouve aussi sur le site internet de Radio Sainte-Afrique à la rubrique Dissonance. Pour habillage sonore de cette émission, nous avons écouté Le Nombril par Jeanne Moreau, Médiocratie d'Hubert Félix Thieffen, Wasted, un morceau composé et joué par le groupe Oxfish, Sais-tu que tu es à peindre nu, interprété par Mona Eftre, et le Scherzo de Félix Mendelssohn, interprété par le Quatuor Renoir. Cette émission sera rediffusée lundi 30 novembre à 20h et mercredi 2 décembre. Vous pouvez aussi la podcaster en vous rendant sur le site de Radio Sainte-Afrique, radiosainteafrique.com, et vous retrouverez les différents liens internet concernant Michel Julliard, Sabine Geoffrey et le groupe Oxfish. Au mois prochain.
Salut et fraternité.